Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis face à Yves Agide. Yves, tu es neuro quelque chose ?
Neuroscientifique.
Neuroscientifique.
Et neurologue.
Et neurologue. Je sais que tu considères que le cerveau est une machine qui reçoit des informations extérieures et qui produit des affirmations, des mouvements, etc. Une chose m'étonne depuis toujours, c'est que ton cerveau et le mien sont différents. Le tien est beaucoup plus sophistiqué, bien sûr.
Bien sûr.
Et par ailleurs, les informations que je reçois dans du monde extérieur ne sont pas les mêmes pour toi et pour moi. Et pourtant, un concept de vérité, d'universalité, a émergé de la plupart des cerveaux humains, le concept de vérité que nous partageons tous. Comment est-il possible que ces milliards de cerveaux s'accordent, alors qu'ils sont différents, sur quelque chose qui ressemble à la vérité ?
Je pense que c'est une question absolument fondamentale. La plupart des gens, c'est ce qui forme la société, s'accordent sur ce qu'ils croient être une vérité. Par exemple, c'est ce qui fonde des communautés sociales, des communautés religieuses, etc. Bon, ça, c'est le fondement de la société, au fond. C'est-à-dire qu'on s'accorde sur un certain nombre de principes qui vont fonder l'entre-soi.
Donc, est-ce que ça veut dire que tu envisages cette vérité comme le résultat d'une évolution quasi-biologique ou bien une vérité genre platonicienne ?
Non, pas du tout. C'est l'organisation sociale, des interactions sociales entre des individus qui sont complètement différents, mais qui, pour se protéger, pour exister, pour survivre, se créent en communauté. Donc, sur un thème, il faut trouver un thème. Et ce thème, c'est généralement, c'est l'idée de la République, c'est par exemple l'idée de Dieu, c'est l'idée, etc. Ce qui crée des liens à la fois intellectuels, mais peut-être plus encore affectifs. C'est ce qu'on voit, je pense, pendant la guerre, entre des groupes de gens qui sont complètement différents, socialement, intellectuellement, physiquement, et qui finalement, dans une situation qui est celle de la survie, se regroupent pour survivre.
Tu veux dire, par exemple, la création d'une forme de patriotisme collectif ?
Oui, par exemple, c'est ça. Où tu vois, dans les tranchées, les soldats sortent de la tranchée tous ensemble, se secourent les uns les autres, etc. Il y a une solidarité qui se crée. Ça fait partie de ce qu'on appelle la République, d'ailleurs.
On a un peu l'impression d'une résonance au sens de la physique.
Je trouve que ce mot-là est important, c'est exactement ça. Parce que la résonance signifie quelque chose qui dépasse le langage. Normalement, les gens se regroupent ou ont des interactions intellectuelles. Nous sommes d'accord pour faire ceci, nous ne sommes pas d'accord pour faire cela. En revanche, sur le plan émotionnel, à ce moment-là, il se passe quelque chose de très particulier entre deux êtres. Moi, c'est ce que j'appelle l'amour. C'est quelque chose qui se ressent immédiatement. Tu arrives dans une réunion, dans un cocktail, par exemple, il y a plein de gens. Si je suis un mâle, il y a plein de dames qui sont là. Il y en a une vers laquelle je suis immédiatement attiré. Pourquoi ? Ça, c'est quelque chose, cette espèce d'empathie immédiate, elle est fondée sur un phénomène qui est un peu comme celui de la résonance physique, mais c'est quelque chose de tout à fait différent. C'est-à-dire, il y a quelque chose dans le comportement, dans le corps, on n'a pas parlé, dans la gestualité, dans le maintien, la posture, dans le visage qui exprime plus ou moins quelque chose, qui exprime peut-être la bienveillance ou au contraire une certaine dureté, etc., etc. une séduction. Pourquoi on tombe amoureux de quelqu'un ? C'est toujours très, très rapide quand on tombe amoureux. C'est très, très subtil.
L'analogie physique, qui est probablement ridicule, c'est que tous les physiciens connaissent bien. On met dans une salle des cloches de différentes dimensions, et puis on tape sur un diapason, et il y en a une qui se met à résonner, c'est celle pour laquelle il y a analogie ou correspondance entre les fréquences propres. Est-ce que c'est quelque chose de cette nature ?
Mais oui, c'est de cette nature, sauf que ça n'est pas des ondes sonores. C'est quelque chose qui tient compte du fonctionnement de notre cerveau, à ce moment-là, clairement. Là, c'est exactement ça. C'est le cerveau de chacun qui entre en résonance avec l'autre. Pourquoi ? Parce qu'il, d'abord, il y a une perception du comportement général de la personne. Or, le comportement général de quelqu'un qui n'est que moteur, c'est uniquement de la moteur, notamment les mouvements du visage, qui sont très complexes, est un reflet de l'intellect et de l'émotion des gens. Et donc, on perçoit immédiatement ce qui se passe. Il peut se trouver que ça soit réciproque. Il faut faire attention, parce que cette résonance dont tu parles, elle peut être entre deux personnes, elle peut être entre des millions de personnes. Le risque, c'est que si on a un accord, ce qui est très bien dans une république, pour voter pour un candidat qui va faire l'accord de tout le monde, ça peut se transformer en hystérie collective sur des thèmes qui ne sont pas du tout ceux de la vérité au sens où tu l'entendais tout à l'heure.
Est-ce que le mot « neurone miroir » rentre dans cette discussion ?
Mais certainement.
Alors dis-nous en quelques mots de quoi il s'agit.
C'est l'expérience d'un copain scientifique qui s'appelle Giacomo Rizzolatti, qui est à Parme et qui a maintenant une trentaine d'années fait une expérience chez le singe. C'était un spécialiste, c'est pour ça que je le connaissais, parce qu'il venait dans mon labo pour faire certaines expériences aussi. On faisait un peu la même chose. Le singe était chargé d'attraper quelque chose sur une table, disons. Et il avait des électrodes, une électrode dans le cerveau, exactement dans cette région-là, ici, dans la région prémotrice, peu importe. Et chaque fois que le singe faisait ce mouvement, il recevait une cacahuète. Donc il mettait la cacahuète à la bouche, à ce moment-là, le neurone crachait. On entend le neurone qui crache. Le chercheur sort, il est midi, il se prend un sandwich, il prend le sandwich à la bouche, et à ce moment-là, à sa grande surprise, le neurone qui avait craché quand le singe avait mis quelque chose à sa bouche se met à cracher aussi, comme si le singe avait la représentation mentale de ce qui se passait dans le cerveau de l'autre. C'est ça l'empathie, c'est de savoir... c'est pas la compassion, c'est de savoir, de deviner ce qui se passe à l'autre, de penser à ce que pense à l'autre.
Et ça a été compris d'un point de vue strictement neuronal.
Ces expériences, je sais que Rizzolatti a mis beaucoup de temps à le confirmer. Je sais qu'il a mis plus de 3 ans en répétant les expériences pour être sûr que c'était pas une coïncidence. Et c'est vrai. C'est vrai, mais est-ce qu'il y a un rapport avec l'empathie ? Parce que là, on part vraiment d'une affaire totalement réductionniste, tout d'un coup, à un processus psychologique qui est un des plus complexes qu'on puisse imaginer. Donc, il faut faire un tout petit peu attention. Les expériences ont été recommencées avec des neurones situés dans d'autres régions, avec des résultats variables. Je pense que ce qu'il faut retenir de ces expériences, c'est que c'est le principe qui est intéressant, de résonance, comme tu disais. Maintenant, quand j'y pense en t'entendant, résonance physique entre des ondes sonores, par exemple, il faudrait faire attention de ne pas dire une bêtise, la bêtise étant de penser qu'il y a une transmission de pensées, que des pensées sont exprimées par l'un à l'autre, comme par hasard, elles entrent en résonance. Ça, il faut faire un peu attention à ça, parce que ça, c'est vraiment la contre-vérité.
Je n'ai jamais évoqué ça.
D'accord. Voilà une vérité, c'est que le cerveau, ça n'est rien d'autre qu'une machine. Donc l'idée qu'il y a un dualisme, le cerveau produit des choses très particulières qu'on appelle des pensées qu'il faut définir. Ça n'est rien d'autre que des informations codées. C'est tellement évident et ça colle avec toute la neurobiologie. Et avec toutes les neurosciences. Alors, quand on te parle de transmission de pensée, de trucs comme ça, de spiritualité ici et là, c'est confondant.
Comment c'est possible qu'on s'accorde sur ce mot « vrai » ?
Moi, je vois les choses de manière très, très simple et probablement grossière et enfantine. Il n'y a pas de vérité scientifique totale, puisque à chaque fois, nos expériences, nos hypothèses qui découlent de conclusions observées expérimentalement sont à chaque fois remises en cause. Le seul problème, c'est qu'on se rapproche d'une certaine vérité. Se rapprocher de cette vérité me paraît absolument essentiel dans la vie courante, parce qu'en science, bon, ça fait partie du jeu pour nous, de remettre en question, de critiquer, d'avoir des doutes et de s'acharner à essayer d'améliorer la connaissance pour tendre vers cette vérité.
À condition de ne pas tomber dans l'écueil qui consiste à dire, puisque c'est comme ça, les vérités alternatives de Trump sont possibles.
Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est le raisonnement que j'appelle paranoïaque, entre guillemets, c'est le raisonnement paralogique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu poses des hypothèses fondées sur des bases fausses, tu as beau raisonner très très bien, c'est ce qui se passe avec un certain nombre de politiques, de scientifiques aussi parfois, mais c'est rare. À ce moment-là, on aboutit à une erreur, c'est ce qu'on appelle un paralogisme. Et au lieu d'être un syllogisme, c'est un paralogisme.
Aristote disait déjà, le faux entraîne n'importe quoi.
Oui, c'est ça, voilà. Il n'y a pas des grands paranoïaques qui font des paralogismes et des normaux qui n'en font jamais. Il y a un gradient, c'est ça qui est intéressant. Il faut détecter dans la relation interpersonnelle ceux qui sont plus proches d'un côté et de l'autre.
Donc je repose ma question, tu n'es pas frappé par l'universalité de nos cerveaux à définir le mot « vrai » de manière à peu près consensuelle?
Je pense qu'il y a deux raisons à cela. La première, c'est l'évolution, c'est-à-dire qu'on a probablement un programme génétique prédisposant à permettre d'avoir un raisonnement qui vous amène à trouver ce qu'on va appeler une prétendue vérité.
Ça, c'est Homo sapiens.
Oui, c'est Homo sapiens. Non, c'est tous les animaux, les mammifères en particulier. Je pense que tous les mammifères ont ça.
Je pense que tous les mammifères...
Pas pour la vérité.
Ah, d'accord.
Mais pour
bien.
L'ensemble des comportements. Nous sommes tous déterminés up to a certain extent. Maintenant, il y a une deuxième chose fondamentale, c'est évidemment l'éducation. Au cours, non pas de l'évolution, mais au cours du développement, le cerveau emmagasine des connaissances nouvelles de jour en jour. Je sais qu'à un an, je crois, un nourrisson produit 250 000 neurones par minute. C'est une chose extraordinaire, les capacités d'apprentissage. Et à ce moment-là, de manière empirique, je pense que, en toute logique en tout cas, les enfants doivent progressivement se façonner une idée de ce que c'est que la vérité.
Je crois qu'on peut imaginer que dans l'histoire lointaine, des groupes de population déconnectés l'un de l'autre auraient pu avoir des perceptions de la vérité totalement différentes.
On peut imaginer ce qui risque de se passer avec des robots, par exemple, qui vont être plus intelligents que nous, avec des mémoires prodigieuses, des capacités d'analogie, de déduction, d'induction phénoménales, qui ne pourront pas être comme nous parce qu'ils raisonneront de manière différente. Ce sera d'autres types de raisonnement, surtout parce qu'il n'y aura peut-être pas les émotions et il n'y aura pas quelque chose qui nous est très particulier, c'est la conscience d'avoir conscience. C'est ce que je dis toujours, c'est-à-dire que sur toutes les capacités du cerveau qui sont l'attention, la motivation, le langage, la mémoire, le raisonnement, la conscience, etc., on peut avoir une pensée sur tout ça. Et d'avoir une pensée sur nos pensées, ça, c'est quelque chose qui est propre à Homo sapiens. Pour revenir à la vérité, c'est probablement ce qui t'amène à poser cette question, parce que justement, tu as une réflexion sur ce qu'on peut penser à propos de la vérité.
Alors, il y a une question que je pose toujours à tous mes invités. Est-ce que tu aimes la musique ?
Moué.
C'est un moué moelle.
Je suis pas un musicien. Je me suis acheté une batterie il y a 2 ans. Je tape, oui, mais je suis nul.
Tu pourrais me recommander une musique qui, selon toi, illustre notre propos. Ça peut être de la batterie, d'ailleurs.
Puisque tu parles de batterie, il y a une chose qui est quand même assez intéressante pour tous les êtres humains, sans exception, et même chez certains animaux très évolués, c'est les rythmes.
Bien sûr, on revient sur la résonance.
Alors les rythmes, c'est quelque chose qui est universel. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, la valse. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, comme ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ta-ta-ta.
Alors, tu connais un morceau de batterie qui ferait ça ?
Mes grands, c'était les grands batteurs des années 50-60. Lionel Hampton, Max Roach et ces gens-là.
Donc tu t'es acheté une batterie ?
Oui.
Tu déranges tes voisins ?
Non, parce que j'ai ça à la campagne. Mais quand je tape, parce que je sais absolument pas jouer, c'est délicieux parce que...
Délicieux pour toi ou pour ceux qui t'écoutent ?
Pour moi. Si tu veux, moi j'aurais envie d'acheter une batterie pour chacun au lieu de donner du Valium, ce serait bien mieux.
Écoute, merci beaucoup Yves. Alors vous avez entendu quelques extraits de Drum Battle par Elvin Jones, Max Roach et Art Blackie, 1968.
Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.